Musique juive d'hier et d'aujourd'hui. Une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïk FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous mensuel de l'Institut européen des musiques juives. Votre objectif, vous faire découvrir chaque mois la richesse et la diversité des musiques juives d'hier mais aussi d'aujourd'hui. Et il y a un peu plus de 3 ans, à l'occasion de la sortie du livre de Bruno Giner qui s'intitulait « Survivre et mourir en musique dans les camps nazis », nous avions consacré une émission à la musique des camps. En cette année 2015 qui marque les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux ouvrages évidemment paraissent sur le sujet et cette période, période qui est certes bien documentée d'un point de vue historique, mais beaucoup moins d'un point de vue musicologique. Et comme notre émission est musicale, c'est avec plaisir que j'accueille ce soir dans ce studio Élise Petit, qui a coécrit avec le même Bruno Giner dont j'ai parlé, chez l'éditeur Bleu Nuit, éditeur donc dans la collection Horizon, un livre qui s'intitule « Entartete Musik, musique interdite sous le Troisième Reich ». Élise Petit, bonsoir.
Bonsoir.
Donc pour vous présenter en quelques mots, vous êtes musicienne, docteur en musicologie, agrégée de musique, déjà là on a presque peur, mais vous êtes aussi spécialiste et surtout spécialiste des politiques musicales en Allemagne. Et vous avez donc coécrit ce livre avec Bruno Giner. Donc ma première question est d'abord, comment vous est venue l'idée d'écrire un livre sur ce sujet, sur un tel sujet, et comment s'est passée cette coécriture à 4 mains en quelque sorte avec Bruno Giner?
Alors ça fait très longtemps que je m'intéresse au lien entre musique et politique en Allemagne, ça fait un peu plus de 10 ans. Et j'ai rencontré d'ailleurs Bruno Giner à cette occasion, puisque dans le cadre de ma thèse, je m'intéressais à la musique dans les camps, donc j'avais lu son livre, et on a décidé de faire ce livre ensemble, qui soit un livre grand public, sur un sujet qui n'est pas assez traité pour le grand public. Et c'est vraiment une écriture à 4 mains, véritablement. On s'est à peine partagé la tâche, de temps en temps il y en avait un qui écrivait et l'autre qui corrigeait, mais la plupart des chapitres ont vraiment été écrits pour moitié-moitié.
Un mot sur deux chacun, presque.
Presque.
En tout cas, l'ensemble est assez remarquable, ce duo musical en quelque sorte et littéraire fonctionne parfaitement. Et je vous propose d'écouter en fait dès à présent un premier extrait musical, donc une première pause musicale avec une œuvre pour le moins étonnante. Il s'agit d'un court extrait de la Symphonia Germanica de Erwin Schulhoff, un compositeur juif d'avant-garde et homosexuel, le symbole même de ce que les nazis exécraient, et on va entendre sa musique, on va comprendre pourquoi. Den Helden, Nous venons d'entendre un extrait de la Symphonia Germanica de Erwin Schulhoff. Alors, je rassure nos auditeurs et auditrices, il ne s'agit pas d'un disque 33 tours qui tournerait au ralenti, en aucun cas, mais bien d'une œuvre d'une modernité assez incroyable. Alors, évidemment, cette modernité, les nazis la détestaient. On verra qu'ils étaient attachés à une forme de plus que de classicisme. Mais surtout, à travers cette œuvre, je crois que Schulhoff, c'est presque un manifeste anti-nazi qu'il fait, non ?
Oui, avant l'heure, parce que l'œuvre date des années 20, et c'est l'époque où il était très affilié au courant dada. Il voulait choquer le bourgeois, déjà à l'époque, donc c'est réussi. Il utilise l'hymne allemand, qui deviendra plus tard l'hymne nazi. Et ça, les nazis ne lui pardonneront effectivement jamais. D'autant qu'il était juif homosexuel, mais aussi communiste.
Ah oui, donc il cumulait absolument toutes les qualités. Mais oui, on reconnaît, enfin pour ceux, nos auditeurs, au début je l'écoutais, mais oui, effectivement, on reconnaît le na da 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 na 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 na. Donc c'est l'hymne allemand, mais qui est complètement dénaturé.
Voilà.
C'est assez incroyable. Et tout ça, vous l'expliquez fort bien dans votre livre, qui est vraiment une mine de renseignements. Et ce qui est incroyable, c'est que tout ça, ça se fait en 167 pages, pas une de plus. Et ça, c'est particulièrement agréable parce que on a parfois affaire à des livres qui sont des véritables encyclopédies ou presque. Alors très intéressant, mais parfois un peu indigeste. Et là, c'est vraiment un livre qui va à l'essentiel. Donc je rappelle le titre de ce livre, mais je le rappellerai encore à la fin de l'émission. Entartete Musik, qui veut dire musique dégénérée. On verra après pourquoi. Donc musique interdite sous le Troisième Reich. Et donc dans ce livre, vous dites que beaucoup de ces musiques qui ont été interdites étaient effectivement dues à des compositeurs d'origine juive, comme Erwin Schulhoff, mais pas uniquement, je crois.
Oui, en fait, les musiques qui ont été décrétées dégénérées sont les musiques qui sont nées pendant les années folles. Donc le régime politique à l'époque s'appelait la République de Weimar. Et donc c'est vraiment ce que Hitler rejetait avant tout et ce que les nazis ont rejeté en bloc, c'est-à-dire toutes les expériences de la modernité, des années folles, du mouvement dada à la nouvelle objectivité, l'expressionnisme, le jazz, énormément de courants artistiques.
Et donc cette modernité des années folles était presque une réaction en fait à la Première Guerre mondiale en quelque sorte.
Oui, tout à fait. C'est une modernité qui était née des ruines et surtout de l'arrêt de la censure, puisque sous l'Empire germain et allemand, il y avait la censure encore jusqu'à l'abdication de l'empereur. Donc à partir du moment où la censure a été levée, ça a entraîné une liberté extraordinaire et ce qui explique aussi la très grande modernité.
Et cette modernité, cette parenthèse donc entre les deux guerres, ça a duré combien de temps? Donc 1918, fin de la guerre, enfin jusqu'à quelle année à peu près?
1933 vraiment pour la fin, 1934 on va dire, et puis quelques exceptions jusqu'aux Jeux Olympiques de 1936, mais à partir de 1933 il y a un véritable recul déjà, un ralentissement des activités modernes on va dire.
Donc tout ceci va être évidemment cassé, comme on va le voir et le développer tout au long de cette émission, par le régime nazi. Mais nous allons faire dès à présent une deuxième pause musicale avec un extrait de Matthias der Mahler. Je ne parle pas très bien allemand, mais je crois que c'est Matthias le peintre, il me semble, quelque chose comme ça, de Paul Hindemith.
Thank you.
Nous venons d'entendre donc de Paul Hindemith, Mathis der Mahler, dans une interprétation de l'Orchestre symphonique de San Francisco, dirigée par Herbert Blomstedt. Élise Petit, pourriez-vous nous dire quelques mots sur la pièce que nous venons d'entendre, puisqu'il me semble que Paul Hindemith n'est pas un compositeur aujourd'hui très connu du grand public, en fait.
Alors, il est très connu des mélomanes, c'est vrai, des grands mélomanes, un peu moins du grand public. Ce qui est intéressant avec Hindemith et avec cette œuvre, donc c'est Mathis der Mahler, qui est une œuvre qui a été composée d'abord sous forme de symphonie, puis d'opéra, c'est que c'est la dernière œuvre composée par Hindemith avant son interdiction par les nazis. Il a un parcours très particulier. En fait, avec la montée des nazis et la prise d'influence idéologique qu'exerçaient certains d'entre eux, Hindemith, se sentant un peu en danger, avait commencé à assagir son langage musical. C'est un très grand représentant de la modernité des années Weimar, mais à partir des années 30, il a choisi d'assagir son langage, et ça, c'est vraiment un très bon exemple, cette symphonie. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que donc Goebbels le considérait comme l'un des talents les plus importants de la jeune génération et voulait vraiment le mettre en valeur comme un représentant de la nouvelle tradition allemande. Mais Rosenberg a lancé une campagne de diffamation contre ce compositeur qu'il trouvait trop moderne et qui était marié à une femme juive. Donc Hindemith a été progressivement rejeté, et même Furtwängler, donc qui dirigeait cette symphonie Mathis der Mahler pour la première en 1934, a pris position contre l'éviction de Hindemith, et c'est comme ça que Furtwängler s'est retrouvé renvoyé par Goebbels de la chambre de musique du Reich. Et Goebbels s'est finalement aligné sur la position de Rosenberg et a rejeté Hindemith en le qualifiant de faiseur de bruit atonal. Donc suite à ça, Hindemith a connu des vicissitudes et il n'est parti en exil qu'en 1938, parce qu'il a quand même essayé de s'accommoder du régime, on lui a confié quelques missions à l'étranger, et il figure dans l'exposition Entartete Musik, musique dégénérée, en 1938, et à partir de ce moment-là, il est parti en exil.
Il est parti en exil où, précisément ?
Il est parti d'abord en Autriche, et puis il s'est installé aux États-Unis.
Oui, comme beaucoup de compositeurs, voilà. On le verra. Donc Hindemith qui n'était pas juif, mais qui a été, pareil, son éviction a été décidée par le régime nazi parce que son langage musical était en fait trop moderne.
Voilà,
en fait.
Et que sa femme était juive, et ça pour Rosenberg, c'était quelque chose qui était absolument impardonnable, et il assimilait les époux et les créateurs.
Et c'est ça qui est particulièrement intéressant dans votre livre, c'est que vous débordez en fait largement la période du nazisme à proprement parler, c'est-à-dire les années 1933-1945. 1933, c'est l'arrivée de Hitler au pouvoir, et 1945, bien sûr, la fin de la guerre, sa chute. Mais vous décrivez avant, donc cette période musicale incroyablement riche dont on a parlé il y a quelques minutes, c'est-à-dire celle de la République de Weimar. Et d'un autre côté, à la fin de votre livre, vous donnez une vingtaine de biographies de compositeurs juifs, comme je crois Hindemith, mais de façon extrêmement synthétique, qui permet de voir comment certains ont pas eu le choix et se sont enfuis, d'autres ont dû s'accommoder. Enfin, il y a eu plusieurs attitudes assez intéressantes durant la guerre. Ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est d'écouter tout de suite un troisième extrait musical d'un compositeur tout à fait emblématique de cette République de Weimar dont on a parlé. Vous nous en direz peut-être quelques mots après, puisqu'il s'agit de Kurt Weill. Kurt Weill qui a écrit une œuvre assez célèbre qui s'appelle en fait « Drei Groschen Oper », mais qui est plus connue en français sous le nom de « L'opéra de 4 sous ». Et on va entendre l'air de Maki Messer qui est chanté par Brecht lui-même, voilà. Donc dans la version historique de la production de cet opéra.
Ein Mensch geht um dir. Maneki Messer nennt und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Maneki Messer, den man nicht beweisen kann. Jenny Tauler war gefunden mit nem Messer in der Brust und am Kai geht Maneki Messer, der von allem nicht gewusst und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Kreis in der Menge, Maneki Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Maneki, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Maneki, welches war dein Preis?
Kurt Weill, l'opéra de 4 sous, donc l'air de Maneki Messer, chanté par Brecht, c'est Bertolt Brecht, hein, oui. Lui-même. Quelques mots sur Kurt Weill. D'abord, est-ce que c'est un opéra? Ça sonne presque comme une opérette. Enfin,
Alors, c'est considéré comme, à l'époque, ils appelaient ça Zeit Oper, qui voulait dire un opéra un peu de l'air du temps, donc qui utilise beaucoup d'influences un peu de jazz, des enchaînements de chansons qu'ils appelaient des songs. Et puis surtout, ça avait été écrit pour une troupe d'amateurs qui sachent chanter, mais qui soient des comédiens avant tout. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les représentations de l'opéra de Katsu, aujourd'hui, les plus intéressantes sont celles qui sont montées par des acteurs qui chantent, plutôt que par des chanteurs lyriques qui essaient de jouer. Ça a vraiment été conçu dans cet esprit-là.
D'accord. Et donc, Kurt Weill, ça a été écrit à quelle époque, cet opéra?
Ça, c'est 1929, donc on est toujours dans la République de Weimar. Kurt Weill, c'est vraiment pour moi le représentant le plus intéressant et le plus emblématique, puisqu'il s'est intéressé à tous les courants, expressionnisme, dadaïsme, nouvelle objectivité. Il a écrit absolument dans tous les styles de la République de Weimar. Donc ça, ce n'est pas du tout représentatif. Enfin, c'est une grande partie de ce qu'il a écrit peut ressembler à ça. Mais il a écrit beaucoup d'œuvres qui sonnent beaucoup plus classiques, beaucoup plus moderne, beaucoup plus proche de la musique contemporaine. Donc il a une palette absolument extraordinaire.
Mmh. Et alors, qu'est-ce qui va devenir Kurt Weill pendant la...
Alors lui, il part dès le début de l'année 1933. Il est prévenu que sa vie est menacée, puisqu'il était à la fois juif, opposant politique et trop moderne. Donc il part, il s'installe à Paris. Il arrive à Paris au début de l'année 1933. Et puis, il a quelques accointances. Il se fait accueillir par la princesse de Polignac. Et puis, il lui arrive une mésaventure qui est aujourd'hui très célèbre. C'est pendant un concert. En novembre 1933, des extraits du Lac d'Argent, Silbersee, sont chantés et Florent Schmitt, grand compositeur collaborationniste s'il en est, se lève et crie « Heil Hitler », enfin crie « Vive Hitler ». Et à partir de ce moment-là, ça déclenche des réactions, beaucoup de réactions dans la presse ultranationaliste de l'époque qui demande à ce que les Juifs partent de France. Et Kurt Weill est vraiment blessé et très touché par l'antisémitisme qui règne en France. Et à partir de 1935, il s'installe aux États-Unis où il fait une grande carrière donc dans les musicals, les comédies musicales.
D'accord. Donc après la République de Weimar, donc le nazisme va succéder à cette République, mais bien sûr, on parle de 1933, mais les idées d'Hitler, ça a commencé bien avant, puisque son parti, le National-Socialistische Deutsche Arbeiterpartei, qui veut dire le Parti National-Socialiste des Travailleurs Allemands, est créé en 1920, Et très rapidement, Hitler en prend la tête. Ce qui est d'ailleurs, ce que je ne savais pas dans votre livre, vous dites que c'est assez une erreur d'histoire parce qu'il avait été, je crois, délégué par l'armée, je crois,
Oui, il a été délégué par les services de renseignement pour surveiller un peu des groupuscules d'opposition, ce qui est absolument incroyable. Et en fait, il a été fasciné. C'était quelqu'un de très intelligent et finalement, il a décidé d'en prendre la tête et il a fait, voilà, ça a mûri sa réflexion. Bon, il avait déjà des idées très antisémite à l'époque, mais en tout cas, ça l'a construit effectivement.
Donc, c'était en 1920. Et en 1923, il y a le célèbre putsch de la brasserie Hitler essaie de renverser les autorités de l'époque. Ce putsch échoue de justesse et donc Hitler est interné durant 13 mois. Et c'est pendant cette période d'internement qu'il va écrire son livre particulièrement haineux, Mein Kampf, qui annonce la tragédie des années à venir.
Et puis, à propos de ce livre, précisons que la belle-fille de Wagner, donc qui s'appelait Winifred Wagner, c'est elle qui va collecter le papier sur lequel il a écrit Mein Kampf. Elle va lancer une collecte et lui apporter des confitures dans sa prison pour qu'il puisse écrire Mein Kampf.
Oui, la famille de Wagner, à l'exception d'un descendant, était très proche de
Hitler.
Ils l'ont toujours soutenu et inversement, pour Hitler, Wagner était un véritable dieu.
Hitler a véritablement sauvé Bayreuth de la faillite à l'époque.
Mmh. Et donc, dans ce livre Mein Kampf, il développe ses idées. Justement, il est obsédé par la pureté de la race allemande qui s'est fait corrompre, notamment par les juifs et les autres non-ariens. Et il va développer dans ce livre la théorie de la régénérescence donc de la race allemande par l'élimination de tout sang impur. Et ce qui est terrible, c'est que ces idées folles vont pouvoir voir le jour, notamment suite au krach boursier de 1929 et la terrible crise économique qui va suivre, et qui vont lui donner en fait l'occasion d'accéder au pouvoir en 1933 et de réaliser son terrible dessin qu'il inscrit déjà dans ce livre Mein Kampf. Et donc c'est le début de cette période 1933 de nazification de la société allemande. Les opposants politiques sont internés à Dachau, en Allemagne, et à Oranienburg, et la vie culturelle est étroitement surveillée pour correspondre aux idéaux du régime nazi. Élise Petit, tout à l'heure, vous avez cité le nom de quelques acteurs de cette mise au pas des institutions culturelles allemandes. Est-ce que vous pourriez un peu développer qui étaient ces personnages? Qu'ont-ils fait? Vous avez parlé, je crois, de Goebbels, bien sûr, qui est bien connu, et peut-être d'Alfred Rosenberg, qui est moins connu aussi.
Alors, Alfred Rosenberg, c'est l'idéologue du régime, c'est celui qui a écrit le programme du parti nazi. C'était quelqu'un qui était obsédé par la race. C'est lui qui a fait découvrir justement les écrits racistes et antisémites à Hitler. Donc, il l'a rencontré bien avant que le parti soit créé. Il a même participé au putsch de la brasserie. Il a même, c'est lui qui a assuré la direction du parti par intérim pendant que Hitler était interné. Donc, c'est avant tout un idéologue obsédé par la pureté du sang, la pureté de la race. Donc, pour lui, la seule musique qui pouvait trouver grâce était une musique qui puise son origine dans les racines du peuple allemand, en gros de la musique folklorique ou la musique des grands maîtres comme Wagner et Beethoven. Mais à partir du moment où il y avait même un huitième de sang juif, le compositeur devait être évincé. Alors que Goebbels était donc le ministre de la propagande, et Goebbels était très intelligent, très manipulateur. Lui, son intérêt, c'était d'avoir l'opinion allemande et internationale de son côté. Donc, pour minimiser les atrocités, il était prêt à faire quelques concessions de liberté en faveur de la modernité, notamment jusqu'à ce qu'il y ait les Jeux Olympiques à Berlin en 1936. Goebbels était assez attentif à une espèce de façade de liberté. Et il a même justement encouragé certains compositeurs comme Hindemith, mais certains artistes expressionnistes comme Emil Nolde. Donc, il y avait vraiment un gros conflit, non seulement idéologique, mais en plus personnel entre ces deux hommes forts qui étaient aux côtés de Hitler, ce qui explique que des fois les politiques musicales aient été absolument paradoxales entre Rosenberg qui décrétait le jazz impur et qui faisait promulguer des interdictions, et Goebbels qui essayait de le rattraper, au contraire, et de s'en servir pour de la propagande. Mais aux côtés de Goebbels, il y avait aussi Göring, Alors Göring, il était président du Land de Prusse, donc c'est-à-dire notamment du territoire de Berlin, donc il contrôlait les théâtres, et il y avait un grand jeu entre Goebbels et Göring, qui était que Göring mettait en avant les œuvres que Goebbels voulait interdire, donc il y avait...
Des rivalités personnelles.
Voilà, c'était des rivalités personnelles. Il y avait aussi Bernard Roust, qui était le ministre de l'éducation de ce même Land, il y avait Robert Ley, qui était le ministre du Travail, il y avait Baldur von Schirach, qui s'occupait de la jeunesse hitlérienne. Tous ces gens avaient leur mot à dire sur la culture. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une nébuleuse avec des politiques absolument schizophrènes parfois entre la musique décriée, encouragée, utilisée, autorisée. C'est absolument passionnant et très complexe. Et
je comprends que vous ayez choisi ce sujet maintenant autour de la politique autour de la musique allemande. Mais alors justement, donc, ce qui veut dire qu'en fait c'était pas uniquement le fait d'être juif qui valait à certains compositeurs que leur musique soit interdite, mais d'autres, soit la modernité, soit, vous le dites à un certain moment, même le jazz, parce que pour les nazis, il y avait une autre figure qui n'était absolument pas recommandable, c'était le noir, enfin, entre guillemets, le nègre, comme il disait, on le voit sur des affiches, enfin, l'affiche de l'exposition dont on parlera plus tard sur la musique dégénérée, c'est justement un noir qui joue du jazz, mais qui a une étoile de David. Enfin, c'est le mal personnifié, je crois, pour les nazis.
Voilà, tout à fait. Alors justement, cette affiche, c'est ce qu'on a choisi pour illustrer la quatrième de couverture. Elle comprend absolument tous les symboles de ce que les nazis détestaient. Alors le rouge, qui est la couleur dominante, qui fait référence aux communistes. Le noir, qui est représenté dans une caricature propre à la représentation du sauvage de l'époque, avec sa boucle d'oreille et des lèvres très charnues, très caricaturales. Le chapeau haute forme et le costume qu'il porte, qui symbolisait le capitalisme américain, notamment les banquiers juifs américains tels que les nazis les imaginaient, la boutonnière qui a une étoile de David, donc pour les juifs, et surtout le saxophone. Donc, qui est l'instrument du jazz, mais qui était aussi l'instrument considéré dégénéré, puisque les nazis disaient qu'il avait un son mou, et que le son mou et efféminé entraînerait les garçons qui en jouaient à devenir homosexuels. Donc, c'était vraiment l'instrument banni par excellence.
Et pourtant, dans votre livre, vous dites que, et ça, je crois, vient de cette rivalité dont vous avez parlé entre Goebbels et Rosenberg, que il va y avoir une période où même certains groupes de jazz vont être mis en avant pour montrer une certaine modernité. C'est le cas notamment de cet orchestre Charlie dont on va écouter dès à présent un extrait, mais vous nous en direz quelques mots parce que je trouve ça tout à fait fascinant. Enfin, ça ressemble à du jazz. Alors comment et pourquoi les nazis ont mis ça en avant? Pourquoi ils ont autorisé ça et jusqu'à quel seuil ils ont toléré ça? On va entendre dès à présent donc un nouvel exemple.
Et juste avant d'écouter, je vais préciser quelque chose sur les paroles. C'est que donc c'est un standard de jazz, Stormy Weather, qui est très connu, et on va entendre le standard chanté avec les vraies paroles anglaises. Et puis dans un deuxième temps, on change pour des paroles allemandes et des paroles anglaises, mais qui ont été modifiées. Et ces paroles en fait sont des paroles de propagande anti-Churchill, qui dit que Churchill est impuissant face à la puissance des avions allemands et qu'il n'arrive pas à bloquer le ciel. Et qu'il pleut des obus sur sa tête et qu'il va perdre la guerre, en fait.
Donc, c'est une œuvre qui a été écrite à quelle époque? Au début de la guerre, alors
pendant la guerre, dans les années 30, après que la guerre ait commencé.
Donc, les années 39-40.
Voilà, 39-40.
Ouais. Très bien, on écoute cet extrait.
Sun up in the sky, stormy weather. Since my gal and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather. Just can't put my poor self together. I'm weary all the time, I'm weary all the time. When she walked away, the blues walked in and met me. When she stays away, all rocking chair will met me.
All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. And go on, everything I had has gone stormy weather. Since my gal and I ain't together, keeps raining all the time. Keeps raining all the time. Here's Mr. Churchill's latest song. Don't know why I cannot blockade the sky, stormy weather. Since my ships and the German planes got together, I'm beaten every time. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather. Just can't keep my poor ships together. They're sinking all the time. Oh, blimey. They're sinking all the time. When I walked into Norway, the Germans came along and met me. My hair has turned to gray now that the French are against me. All I do is call my Royal Navy for action to attack French ships in their peaceful bays. Can't go on. Even my truest friends are gone. Nasty weather. Just can't keep my poor self together. I'm beaten all the time. I'm beaten all the time.
Stormy Weather, composé par Harold Arlen et chanté par Charlie and His Orchestra, et c'est extrait d'un très intéressant CD qui s'appelle Swing Tanz und Verboten Swing Music und Nazi Propaganda. Donc ça montre bien à quel point ce jazz en fait servait la propagande nazie. C'était un jazz presque nazifié. Pourquoi ? Parce qu'il détournait. Dites-nous un peu.
Alors l'histoire de ce groupe est très intéressante. C'est donc il a été créé sur commande de Goebbels en avril 1940 et parce que Goebbels s'est rendu compte que si on interdisait le jazz, les aficionados, qui étaient beaucoup d'ailleurs des jeunes, allaient l'écouter par d'autres moyens et ils risquaient de capter les ondes étrangères et entendre des nouvelles bien moins réjouissantes que ce que le régime donnait. Donc il a décidé de fabriquer un jazz nazifié, donc les instruments sont pas les mêmes, on est sur des instruments plus allemands, il n'y a pas le swing, c'est pour ça qu'on parle de jazz nazifié. Et dans le cadre de Charlie and His Orchestra, c'était uniquement pour de la propagande, et il voulait aussi que les ondes étrangères, enfin que les auditeurs étrangers puissent capter cette radio qu'il a appelée Europa Sender, donc on ne pouvait pas savoir que c'était une radio nazie, et s'ils tombaient dessus par hasard, ils auraient entendu cette chanson que tout le monde connaît en se disant « Ah oui, tiens, les paroles, Churchill qui dit qu'il n'arrive pas à bloquer le ciel, qu'il pleut des obus et voilà, qu'il va perdre la guerre. » Donc ça, c'est vraiment un groupe de propagande, mais il a aussi créé d'autres groupes, comme Die Goldene Sieben, qui étaient des groupes de jazz arianisés, assagis, on va dire, mais qui ne visaient pas la propagande, qui visaient à supplanter le jazz et à en donner une version moins débauchée, puisque ce qu'on reprochait au jazz à l'époque, c'est qu'il entraînait la jeunesse à la débauche. Donc on essayait d'en faire un jazz un peu plus policé, ce qui n'a pas marché, bien sûr.
Alors, il y avait le jazz, bien sûr, et puis il y avait aussi d'autres courants, mais comme par exemple la musique dodécaphonique, on n'en a pas parlé, bien sûr, avec Arnold Schoenberg, ça c'était bien avant, cette musique atonale qui rejetait la tonalité et qui était rejetée pour cette raison de modernité, de dissonance par les nazis. Et tout ça était inclus dans ce qu'on appelait donc musique dégénérée, une tarte était musique. Le terme lui-même, on l'a dit tout à l'heure, mais peut-être on peut préciser, ça vient d'une exposition, je crois, qui s'est passée en quelle année ?
Alors, ce terme, il était apparu un peu à la fin du 19e siècle, mais c'était plutôt normalement dans un sens biologique. Ça voulait dire qu'il s'éloigne de l'espèce. Et c'est le clan Rosenberg qui l'a repris pour l'appliquer à l'art. La première application qu'il y a eu à l'art, c'était en 1937, quand ils ont organisé une exposition qui s'appelait Entartete Kunst, donc art dégénéré, qui a eu lieu à Munich. Et fort de cette expérience, Rosenberg a impulsé l'organisation de l'exposition Entartete Musik en 1938 à Düsseldorf. Mais ce qui est très intéressant sur cette aventure, c'est que Entartete Kunst a eu lieu pendant que Goebbels, de son côté, avait organisé une exposition qui mettait en valeur l'art nazi, l'art vraiment allemand, et Entartete Musik s'est trouvé organisé en marge des journées musicales du Reich, qui étaient des journées qui mettaient en avant les compositeurs de la tradition allemande. Donc on est aussi toujours sur des initiatives qui sont concurrentielles, à tel point que Goebbels refusera de visiter l'exposition dans un premier temps. Donc c'est vraiment, c'est ça aussi qui est intéressant sur cette exposition-là.
Et cette exposition va avoir quand même un vif succès et on va entendre ou pouvoir voir, parce que c'était Entartete Kunst, c'était même des peintres, hein, il y avait toutes sortes de peintres, mais il y avait aussi donc, des musiciens dans l'exposition Entartete Musik, dont Ernst Krenecke, dont on va entendre un extrait tout de suite, extrait de son opéra de jazz qui s'appelle Johnny Spielt auf, qui date de 1927. Leb wohl mein Schatz, qui veut dire vie, mon trésor. Donc, extrait de l'opéra jazz Johnny Spielt auf de Ernst Krenek, qui était un musicien juif, un compositeur juif également.
Qui n'était pas juif, c'est un des seuls qui n'était pas juif et qui a été épinglé pour sa modernité. Mais justement, cette œuvre était vraiment l'emblème de tout ce que les nazis détestaient et elle a même inspiré le catalogue de l'exposition, l'affiche avec ce noir qui joue du saxophone, parce que le héros de cet opéra, Johnny, était un musicien noir qui jouait du saxophone.
Alors, musicien noir qu'on voit à la scène en plus jouant du saxophone, je comprends que ça ait choqué les nazis dans leur esprit de régénérescence. Élis Petit, en éliminant les musiciens juifs ou contestataires ou trop modernistes de la vie musicale, et malheureusement souvent de la vie tout court, l'objectif d'Hitler et de Goebbels en particulier était de faire émerger des talents musicaux purement ariens. Mais est-ce qu'ils vont y parvenir finalement ?
Alors c'est toute la question à laquelle on a consacré un chapitre justement. Ils ont eu énormément de mal. Dans un premier temps, ils se sont dit qu'ils allaient d'abord encourager ce qui existait. Donc ils ont récupéré le répertoire wagnérien qui était le compositeur préféré de Hitler. Ils ont détourné Beethoven et ses idéaux pré-européens. Ils ont utilisé aussi Mozart. Mais ils ont quand même lancé des concours de composition en attendant qu'un compositeur de génie se distingue. Alors au début c'était Hindemith et puis on a vu qu'il avait été interdit. Roumanie. Et il y a quelques talents qui vont se distinguer. Alors, on n'en connaît plus aujourd'hui puisque c'était des talents mal employés, on va dire. Mais les plus connus sont Werner Egk et Karl Orff, qui est un des seuls compositeurs qui ait accepté quand même de composer un nouveau songe d'une nuit d'été pour remplacer la musique de Mendelssohn, qui
Mendelssohn étant juif.
Voilà, d'origine juive. C'est un compositeur extrêmement opportuniste qui a vraiment collaboré avec le régime, bien qu'il n'ait jamais adhéré au parti nazi. Et voilà, il a composé dans cet esprit-là.
Alors, de Karl Orff, on connaît son Carmina Burana, qui est encore joué aujourd'hui. On connaît moins le passé sulfureux de Karl Orff, qui s'est quand même beaucoup compromis avec les nazis. Mais on va écouter tout de suite un extrait de la musique qu'il a écrite pour les Jeux Olympiques, qui est donc extrait d'un CD, qui est l'enregistrement original de la musique de ces Jeux, dans 1936. Un extrait de la musique pour les Jeux Olympiques composée par Karl Orff, donc pour les Jeux Olympiques, je crois, de 1936.
Voilà, alors c'était une commande du Comité Olympique, ce qui a permis à Karl Orff de se disculper aussi à ce niveau-là après la guerre. Alors, sur l'esthétique qu'on a entendue, c'est très musique folklorique. Ah ouais. Karl Orff, à l'époque, avait ouvert une école avec Dorothée Günther, qui s'appelait les Günther-Schule, dans lesquelles il a développé ce qu'on a appelé la méthode Orff, qui est une méthode encore très efficace aujourd'hui pour apprendre la musique, qui est très enseignée à travers le monde entier. Et donc, Orff, en fait, était extrêmement ambitieux et son objectif était de caser sa méthode auprès de la jeunesse hitlérienne pour toucher le plus grand nombre d'enfants possible et faire le plus d'argent, bien sûr, ce qui a réussi partiellement. Après, cette musique, si on veut avoir... Il n'y a pas vraiment de musique nazie, mais si on veut avoir un aperçu de ce que pouvait être la musique nazie, c'est le meilleur exemple, c'est les Carmina Burana et notamment le O Fortuna. Mais juste pour disculper Karl Orff là-dessus, il n'a pas voulu écrire de la musique nazie. Il s'est trouvé que ses goûts personnels étaient ceux de son esthétique. Cette esthétique, il a vraiment, c'était la musique qu'il aimait, et donc il avait les mêmes goûts que les nazis. Ça,
c'est vrai. À la fois, il y avait ce côté populaire, chant populaire, et parfois un peu pompier aussi, avec des grosses masses sonores.
Très pompier, enfin... très rythmique, très marqué.
Ouais. Et donc, à la fin de votre livre, puisque l'émission passe très vite et il faut qu'on avance, vous donnez, comme je l'ai dit, le parcours de 21 compositeurs dits dégénérés, donc certains morts dans les camps comme Erwin Schulhoff, Victor Ullmann, Hans Krasa, Gideon Klein, ces trois derniers étant passés par Theresienwiesen, et d'autres qui ont pu fuir le régime nazi à temps comme Kurt Weill, Arnold Schoenberg, Ernest Tosch, ou encore passé tout juste entre les mailles du filet comme Norbert Glanzberg, auquel on avait consacré une émission, qui s'est réfugié en France, Louis Sager aussi. Et une dernière catégorie un peu particulière qui est restée en Allemagne, mais qui s'est enfermée dans un exil intérieur. C'était souvent d'ailleurs pas des compositeurs juifs, mais ils ont arrêté de composer presque, ou en tout cas c'était le cas de Anton Webern. Ou de Karl Amadeus Hardman.
Ils ont pu se le permettre parce qu'ils n'étaient pas juifs, effectivement, donc ils ont arrêté de composer.
C'est qui était une forme d'opposition intérieure. Ouais. Est-ce que on pourrait, on va écouter donc un extrait connu hein, de Victor Ullmann, ce compositeur mort donc déjà enfermé à Térésine, où il a composé l'extrait de l'œuvre que nous allons entendre, c'est-à-dire Der Kaiser von Atlantis, l'empereur d'Atlantis, et il a été malheureusement après gazé à Auschwitz. On va entendre tout de suite cet extrait de Victor Ullmann, Der Kaiser von Atlantis.
Im Namen seiner Majestät, des Kaisers overall. Wir zu Gottes Gnaden, overall der einzige Ruhm des Vaterlandes, Segen der Menschheit, Kaiser beider Indien, Kaiser von Atlantis, regiert.
Un extrait de Victor Ullmann, l'empereur d'Atlantis, qui est vraiment une mise en scène, enfin une mise en boîte de l'horreur nazie. L'empereur, on sait à qui il pense, c'est Hitler. Et d'ailleurs, on retrouve quelque chose qu'on a entendu, je crois, au début
voilà,
de l'émission.
Voilà, puisqu'il a ironiquement appelé cet empereur Overall. Donc c'est une caricature de Über Alles, qui est le Deutschland Über Alles. Et là, l'extrait qu'on a entendu, c'est le tambour qui annonce tous les titres très pompeux de l'empereur. Et on reconnaît derrière l'hymne allemand, donc nazi, qui a été déformé. Et donc Ullmann a composé cette œuvre à Térésine, et ce qui est vraiment très important pour voir à quel point il est dans un processus de résistance, c'est que l'utilisation de l'hymne nazi et sa déformation, bien sûr, était formellement interdit, mais on pouvait vraiment avoir des peines de prison ou de camp pour cet outrage. Et c'est une œuvre absolument passionnante, puisque justement, c'est un recueil de toutes les esthétiques interdites. Donc il cite du Mahler pour les compositeurs juifs de la grande tradition, il cite du jazz, de la musique atonale, il utilise justement des hymnes nazis qu'il n'aurait pas eu le droit d'utiliser. Donc on est sur une œuvre qui est absolument représentative de tout ce que pouvait représenter la composition musicale et la résistance dans le camp de Térésine. C'est pour moi la plus emblématique.
Alors, puisqu'on parle de Térésine, on va finir l'émission avec quelques secondes donc de notre dernier extrait musical, ce fameux opéra pour enfants qui a été écrit par Hans Krása, qui s'appelle Brunn die Bär, et voilà, qui a été malheureusement et qui a été joué et chanté par les enfants à Térésine avant leur déportation.
Vater, stand schon vor einem Jahr.
un très bref extrait de Brundibar de Hans Krása. Et pendant qu'on l'écoutait, on était en train de dire justement, alors la spécialiste à côté de moi, Alice Petit, qui me disait, mais normalement ça se chante en tchèque et pas en allemand, donc il s'agit bien d'une version allemande de cette opéra, enfin, en langue allemande.
L'opéra a été adapté en fait dans énormément de langues, notamment le français aussi et l'anglais, donc il est chanté aujourd'hui dans toutes les langues, puisque justement il représente tellement le symbole de cette résistance, bien qu'il ait été composé en 1938, mais il a été donné 50 fois dans le camp, dont devant les représentants de la Croix-Rouge qui étaient venus visiter ce camp transformé en camp de propagande pour l'occasion.
Bah écoutez, c'est passionnant. Élise Petit, on vous écouterait parler jusqu'au bout de la nuit, mais malheureusement, notre émission est terminée. Et donc, vraiment, je vous remercie pour cet éclairage absolument somptueux de cette sombre période. Je recommande vivement à tous nos éditeurs et auditrices de se procurer ce livre donc de Élise Petit et Bruno Giner, dont je redonne les références, « Eine Tartete Musik »,« Musique interdite sous le Troisième Reich », qui est publié aux éditions Bleu Nuit Éditeur, c'est dans la collection Horizon, et vous trouverez tous les renseignements sur le site de Bruno Giner. Et si vous souhaitez bien sûr écouter cette émission en podcast ou d'autres, retrouvez-nous donc sur le site de l'Institut Européen des Musiques Juives, www.iemj.org, ainsi bien sûr que sur judaïquefm.com dans la rubrique podcast. Au micro, Hervé Roten, Avner à la technique. L'Institut Européen des Musiques Juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives, produite et présentée par Hervé Roten sur judaïquefm.
Sugar. I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild over honey child. Honey child's got me feeling funny. I'm gushlagging muddy in the noggin. Oh, I'm the sugar for my sugar. Sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me.